Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Massissi Centre au Nord Kivu, passé sous occupation rebelle depuis hier après-midi. Nous sommes à 80 km environ de Goma. C'est à l'issue des violents combats entre le M23 et l'armée appuyée par les Wazalendo. Un élu de Massissi qui confirme l'information exhorte le gouvernement à rétablir la paix dans cette zone. Congo central, la morgue de l'hôpital Nsolankulu saturée, la population locale contrainte d'aller conserver les cadavres plus loin. Entre-temps, une nouvelle morgue en cours de construction en Banzangungu, les travaux peinent à s'achever faute de moyens. Et puis, l'invité de ce matin, Johnson Kasongo, ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, il s'exprime sur la montée de la criminalité dans cette province, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord, cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde tous les officiers et leur demandent de ne point prendre en considération tout message envoyé par un compte WhatsApp avec identifiant et photo du lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, nouveau chef d'état-major général de l'armée. Dans un communiqué de presse parvenu samedi soir à Radio Kapi et signé par le porte-parole des FARDC, l'armée congolaise signale qu'il s'agit d'un compte fabriqué par une certaine dame nommée Yvette Nzingire au service de l'agresseur rwandais et du M23. L'armée rappelle que les réseaux sociaux ne font pas partie des outils de transmission des messages pour les forces armées de la RDC. L'armée congolaise renseigne que ce cas n'est pas isolé. Le lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, et d'autres hauts cadres de l'armée sont également victimes de cette pratique de l'ennemi. Entre-temps, au Nord Kivu, Massissi Centre, chef du territoire de Massissi, est passé sous occupation rebelle en début d'après-midi hier samedi. Nous sommes à environ 80 km de Goma. C'est à l'issue des violents combats qui ont opposé depuis vendredi les rebelles du M23 au FARDC, appuyés par les Wazalendo dans cette zone. Un afflux des déplacés se concentre à l'hôpital général de Massissi. D'autres encore ont pris la direction de Nyabiondo, Bukombo et diverses directions. Un député provincial de Massissi confirme la prise de Massissi Centre. Il exhorte le gouvernement congolais de mettre les moyens logistiques et opérationnels nécessaires à la disposition des FARDC pour stopper l'avancée des rebelles et les bouter hors du Nord Kivu. Le député Alexis Baunga le dit au micro de Denise Lukeso.
C'est avec consternation que nous apprenons la prise de Massissi Centre, chef-lieu d'État de Massissi, par les insurgés du M23, après s'être emparé aussi de la localité de Lushéber. Ceci plonge le territoire dans une catastrophe humanitaire extrêmement grave, car la population a dégarni tous ces villages et toutes ces cités et elle a pris plusieurs destinations. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement congolais d'envisager des mesures holistiques visant le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles de nos forces républicaines, en l'occurrence les FARDC, mais aussi des mesures visant la restauration de l'État sur l'ensemble du territoire national. La prise de Massissi par le M23 risque de susciter de nouvelles visions ou de nouveaux appétits vers Walikale. Et une fois arrivé à Walikale, malheureusement, cela risque de créer une nouvelle réflexion dans les têtes de ces insurgés. Et malheureusement, nous risquons de revivre la situation de 1998. Nous tenons donc à alerter le gouvernement congolais pour que celui-ci mette en tout cas des moyens nécessaires pour bouter dehors les M23 qui risquent encore de replonger la RDC dans un chaos noir.
Par ailleurs, sur l'axe Bweremana, les lignes n'ont pas bougé. Les combats se sont poursuivis hier avec des bombardements dans les deux camps. Restons au Nord Kivu. Les défis actuels liés à la guerre à l'est de l'RDC et solutions pour bâtir une nation unie et résiliente, tel est le thème débattu lors d'une conférence débat samedi à Goma. Cette conférence organisée par l'Université des Martyrs du Congo en collaboration avec le gouverneur du Nord Kivu s'inscrit dans le cadre de la commémoration le 4 janvier de la journée des martyrs de l'indépendance. C'était une occasion pour une centaine de participants civils, militaires et policiers, y compris les professeurs des universités l'Université de Goma d'être informé sur les défis de gouvernance dans le contexte actuel de crise sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. C'était aussi une occasion pour le recteur de l'Université des Martyrs de plaider en faveur d'une prise en charge de son institution qui prend en charge des orphelins des militaires et policiers morts en martyrs au combat. Écoutez à ce sujet le professeur Alphonse Massandi au micro de Bernardin Nyangui.
Il faut que toutes les couches de la population mettent la main à la pâte. Nos étudiants cibles sont nos payants. Ils ne payent rien. Mais si l'État congolais ne ciblait pas aux charges d'investissement, de rémunération, nous allons nous en sortir. Évidemment, les personnes de bonne volonté ne mentent pas. Je vous ai parlé du cas du patron des Primidis qui donne un bus, qui prend en charge 40 bourses des étudiants. Mais les 40 bourses, c'est quand même un fonds qui permet à l'université de fonctionner, n'est-ce pas? Mais si j'étais nombreux à le faire, la tâche nous serait rendue facile. Je sais que cette année, 2025, il y a un effort qui est fourni de la part du gouvernement pour ne payer ne fût-ce que les enseignants et les personnels. Mais vous savez que l'UNIM n'a pas d'infrastructure. Notre mission est salvatrice. Notre université, tout en étant scientifique, mais elle est aussi sociale.
Rappelons que parmi les orateurs figuraient le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Ekoukalipopo, le président de la société civile et l'envoyé du maire de la ville de Goma. Ici à Kinshasa, les quartiers Livoulou, Rigini et Salongo dans la commune de Lemba ont subi la loi des jeunes délinquants appelée Kuluna durant toute la période des fêtes de fin d'année, des pare-brise des véhicules cassés pour voler tout leur contenu et des biens des passants volés sur certaines avenues ainsi que des blessés par machette parmi les passants les plus résistants. Tel est le bilan des opérations Kuluna surtout dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les habitants du quartier Salongo plaident pour l'effectivité de l'opération Ndo lancé par la police afin de pacifier aussi leur quartier. C'est un reportage signé Michel Kifindangoy.
C'est autour de 9h sur boulevard Salongo dans la commune de Lemba qu'un groupe de Kuluna venus avec des motos armés de machettes et autres, aux allures d'un film d'action, se sont pris aux véhicules stationnés pour y voler tout leur contenu, témoigne une victime. Maître Évariste Kazadi, avocat au barreau de Matete.
Bon, nous avons été surpris en pleine journée à 9h du matin que les personnes viennent avec des birins pour casser les pare-brises de voiture et prendre tout ce qui était dans le véhicule. J'étais victime, ils m'ont pris le sac, les dossiers, les ordinateurs et autres choses.
Les Kuluna ont poursuivi leur opération d'extorsion et de terreur dans ce quartier toute la nuit du 31 décembre, comme sur un territoire conquis, déplore Maître Évariste Kazadi.
Ils ont utilisé des machettes en toute impunité et au vu au-dessus de tout le monde. On a arraché tout à tout le monde. Alors que la police de proximité n'est pas loin dans le quartier. Nous avons beau crier, mais on n'a pas vu la police. Ce n'est que le lendemain qu'on verra un camion de policiers passer à la recherche des Kuluna.
Plusieurs autres cas de vol et de terreur de ces jeunes Kuluna ont été signalés dans les quartiers environnants d'Engaba, Makala et Mongafula, au point de pousser la population à se demander à quand l'opération Ndobo dans leur quartier.
Justement, au moins 57 présumés Kuluna ont été transférés hier samedi de Kinshasa vers la prison de haute sécurité de Angenga dans la province du Sud Ubangi. Cette deuxième vague d'expédition s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna visant à dissuader le banditisme urbain qui sévit à travers la RDC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a lui-même assisté au déroulement de cette opération aux côtés des représentants du ministère de l'Intérieur et du commissaire divisionnaire adjoint de Kinshasa à l'aéroport international d'Ndjili. Selon des sources officielles citées par l'agence congolaise de presse, le commandant de la police nationale ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a réitéré son engagement à mettre fin au phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Cet officier de la police nationale a également appelé les parents à conscientiser leurs enfants, à arrêter avec ce genre de comportement, car une fois appréhendés, ils seront entre les mains de la justice. De la prison centrale de Makala à l'aéroport international d'Ndjili, la population, plus que satisfaite, n'a pas caché sa joie pour cette opération, une façon pour elle d'approuver la sérénité avec laquelle la justice traite ses délinquants. À Radio Kapi, Yves Kisombe, le porte-parole du ministre de la Justice, a assuré que ces opérations vont se poursuivre sans désemparer, comme a annoncé son ministre. Notons que la troisième vague des transferts de ces Kuluna interviendra ce dimanche 5 janvier.
Direction le Congo central, je vous le disais en titre, l'état de saturation constante de la morgue de l'hôpital Nsonankulu à la cité de Mbanzangungu contraint la population locale à aller conserver les cadavres plus loin, à 54 kilomètres au secteur de Gombe Matadi. La société civile de Mbanzangungu qui le rapporte indique que l'hôpital de Nsonankulu a déjà construit sur fonds propres un bâtiment devant abriter une nouvelle morgue. Cependant, faute de moyens, les travaux souffrent des finitions. Marie-Claude Diansonama, coordonnatrice de la société civile locale, appelle le gouvernement tant national que provincial ainsi que d'autres personnalités influentes de Mbanzangungu à placer l'achèvement de cette morgue parmi les priorités de l'heure. Le point avec Nana Plurish Mambou.
À cause de la saturation, parfois les gestionnaires de la morgue et de l'hôpital de Nsonankulu renvoient des cadavres, surtout ceux provenant d'autres hôpitaux. En effet, plusieurs familles en cette période préfèrent gérer leurs dépouilles pour organiser les funérailles et l'enterrement après les fêtes. Pourtant, construite en 2012 avec une capacité de 35 corps, cette morgue reçoit actuellement entre 80 et 100 corps. Une surcharge qui met en mal la réfrigération et occasionne parfois la défectuosité de certains corps. À cet effet, un communiqué émanant de l'administration des territoires sommet les familles qui avaient des corps des proches à la morgue de les retirer. Cette situation oblige les familles à acheminer les cadavres jusqu'à la morgue de l'hôpital de Gombe Matadi, situé à 54 km de la cité de Mbanzangungu. Pour remédier à cette problématique, la coordonnatrice de la société civile Marie-Claude Touzolana lance un SOS.
La morgue ne sait plus recevoir des cadavres. C'est ainsi. Nous demandons à toutes les autorités compétentes de mettre cette activité de la morgue de Mbanzangungu dans les priorités du moment pour soulager cette population.
Entre-temps, les travaux de construction de la seconde morgue plus spacieuse débutée en 2023 stagnent faute de moyens. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, les enseignants de la province éducationnelle Maïndoumbé 3 ont passé les festivités de fin d'année dans l'inquiétude. À la base, ils sont impayés depuis deux mois, soit novembre et décembre 2024. D'après Giscard Mbukela, président de l'intersyndicale, la Caritas assure leur paie, mais le fait d'une manière irrégulière, perturbant ainsi la qualité de l'enseignement. Ils sollicitent l'implication de la hiérarchie pour la régularisation de la paie des enseignants dans cette partie du pays. Irène Mboma nous fait le point.
Dans un entretien vendredi, le président de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Maïndoumbé 3 a déclaré que la situation salariale des enseignants des territoires d'Oshu et de Koutou payés par la Caritas Congo reste très préoccupante pour le moment. La même source affirme que jusqu'à ce jour, ces derniers n'ont jamais touché leur salaire du mois de novembre et de décembre dernier. Conséquence, ces professionnels de la CRE ont passé les festivités de Nouvel An dans la méditation des
C'est déplorable. La Caritas dit n'avoir pas reçu l'argent de l'État congolais à tel point que les enseignants ont fêté sans argent. Il n'y a pas eu fête, il y a eu une sorte de deuil. On a fêté dans la méditation.
À en croire Giscard Mbukela, cela fait plus de 5 ans que les enseignants de ce coin de la province du Maïndoumbé acquisent toujours des retards récurrents et des irrégularités dans le paiement de leurs salaires. Situation qui, selon lui, crée les malaises sociaux et met en difficulté la qualité et la gratuité de l'enseignement.
Il y a trop de mouvements de grève, trop d'irrégularités et tout ça, ça menace et la qualité et la gratuité de l'enseignement. Nous demandons à l'État de prendre des responsabilités en main.
Signalons que nos efforts pour avoir la réaction de la Caritas Maïndoumbé à ce sujet sont restés vains. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika, signalant la baisse du prix du ciment gris produit par la société chinoise GLC. L'annonce a été faite vendredi par le gouvernorat de province. Cette baisse est le fruit des négociations entre le gouvernement provincial du Tanganyika et la société GLC. Pour sa part, la Fédération des entreprises du Congo FEC Tanganyika dit ne pas être satisfaite de cette baisse. Paulin Munanga nous en dit plus.
Un sac de ciment de 50 kg de 42.5 de concentration qui coûtait 34 000 francs congolais sera désormais vendu à 29 900 francs congolais. Et celui de 32.5 de concentration qui s'est négocié à 29 000 francs va coûter 26 000 francs congolais. La société chinoise GLC fait savoir que cette révision à la baisse est le résultat de trois mois de négociations avec le gouvernement provincial du Tanganyika. Signalons que le prix élevé du ciment produit localement dans la cité de Kabimba a été décrié depuis longtemps par la population du Tanganyika. Ce même produit coûte moins cher lorsqu'il est vendu dans d'autres provinces ou exporté dans d'autres pays. En réaction, la Fédération des entreprises du Congo FEC Tanganyika n'est pas satisfaite de cette baisse des prix du ciment. Jules Moulia est le président provincial de la FEC.
C'est pas normal que le ciment ici coûte plus cher qu'à Goma. Et à Ouvira la même chose, à Kigoma la même chose. C'est trop cher. Le ciment qui coûte ici 26 000 francs, à Goma, il coûte 21 000 francs, quelque chose comme ça. 7,6 dollars, ici, ce même ciment, là, coûte 26 000 francs. Nous attendons le retour du gouverneur, nous allons lui faire part de notre mécontentement, et nous allons le faire ensemble avec la société civile.
Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, entre la révision ou le changement de la constitution de la RDC, oui pour la réécriture d'une nouvelle constitution de la RDC, ce thème a été au cœur d'un débat hier samedi à l'université de Bunia à l'occasion d'une conférence scientifique organisée par l'ONG Laboratoire scientifique de paix, justice, démocratie et développement. Des nombreux étudiants, des scientifiques et acteurs politiques ont pris part à cette activité. Le compte-rendu de Sadiki Aboubakar.
Dans son exposé, le professeur Patrick Tchombé a affirmé que la constitution actuelle du pays ne mérite ni sa révision ni son changement, mais plutôt sa réécriture pour doter le pays d'une nouvelle loi fondamentale au regard des limites que représente la constitution actuelle. Mais pour de nombreux intervenants, les problèmes du pays sont plus liés à la qualité des dirigeants et non à la constitution. Thèse que réfute l'acteur politique Outhir Tchanboulé, pour qui l'actuelle constitution doit être changée.
Lorsque la constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive au sein des institutions, il y en a beaucoup qui ont plusieurs nationalités, vous pensez que vraiment il y a un problème de volonté? Il y a plutôt un problème d'inadaptation du texte.
Pour sa part, le chef des travaux Pélé Kassoir affirme que le changement ou la réécriture de la loi fondamentale ne sont pas constitutionnels.
La réécriture n'est rien d'autre que le changement. Le changement n'est pas constitutionnel. Le changement de la constitution va appeler un coup d'état constitutionnel. Et là, ça laisse les portes ouvertes à des rébellions. Et là, on peut faire appel à l'article 64. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec le professeur, mais je suis pour la révision parce que notre constitution appelle qu'on puisse la révisiter sur certains de ces articles.
Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les premiers contingents de soldats et de gendarmes venus d'Amérique latine sont arrivés ce week-end à Port-au-Prince, en Haïti. Ils rejoignent la mission de sécurité internationale pour appuyer la police haïtienne à faire face aux gangs. Parmi les 83 agents arrivés, 8 soldats venus du Salvador et 75 militaires du Guatemala. Les Salvadoriens assureront les évacuations des blessés et l'aide médicale dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya, et les Guatémaltèques participeront quant à eux aux opérations visant à démanteler les gangs haïtiens.
L'invité.
Nous recevons Johnson Kasongo, ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. Il s'exprime sur la montée de la criminalité dans cette province, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année. Il regrette aussi le fait qu'il y a certains éléments des forces de sécurité qui collaborent avec des bandits. Le ministre Johnson Kasongo s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur le ministre de l'Intérieur provincial Johnson Kasongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, pendant cette période de festivités, nous avons constaté quelques mouvements de cambriolage par-ci et par-là dans la ville de Kalemi. Comment avez-vous géré cette situation?
La situation est au contrôle parce que vous savez que pendant les festivités, même les délinquants sont en train de chercher quoi donner à leur famille. Connaissant cela, c'est comme ça que le service de sécurité est debout. Et si nous avons eu les quelques cas comptés au bout des doigts, c'est parce que le service de sécurité s'est déployé pour protéger la population afin que cette dernière passe bien les festivités. Et c'est ce que vous avez constaté. Et donc, le déploiement de la police sur toute la ville, surtout sur le point chaud, et aussi les jeeps de patrouille que le chef de l'État a doté à la police, nous ont beaucoup aidés pendant ces temps, raison pour laquelle vous avez vu une trentaine de délinquants qui ont été appréhendés de 15h jusqu'à 4h du matin de ce 1er janvier 2025.
Qu'est-ce que vous reprochez à ces jeunes-là?
Cette trentaine, il y a deux parmi eux qui, après avoir pris de l'alcool, hautement alcoolisé. Ils se sont mis à se battre, deux parmi eux. Il y a quatre parmi eux qui ont été surpris, profitant de l'ivresse de certaines filles. Ils ont été au-dessus des filles, voulant les violer. Il y a aussi à peu près sept qui ont été surpris en train de soutirer les téléphones, les porte-monnaies et les sacs à main à d'autres populations. Il y a aussi ceux qui ont été surpris avec des machettes, notamment en train de voler. Les militaires que vous êtes en train de voir là a été surpris à 1h du matin avec 6 chaises en train de partir pour se cacher. Il a été aussi surpris. Et donc, ce sont des actes qui leur ont été reprochés et parce qu'ils ne voulaient pas que la population puisse passer les journées de fête en toute quiétude.
À l'Assemblée provinciale du Tanganyika, il y a même une question orale qui vous a été adressée à ce sujet. On estime que la situation sécuritaire dans la ville de Kalemie et au niveau de la province du Tanganyika n'est pas stable. Comment est-ce que vous réagissez?
Et dire qu'à Kalemie ou dans les Tanganyika, il y a de l'insécurité, c'est pas le concept insécurité, les gens le confondent avec la criminalité urbaine. Donc ici, parlons de la criminalité au lieu de l'insécurité. Et donc, la criminalité, c'est vrai, il y avait ça et là, quelques cas de criminalité urbaine, et qui sont en train d'être maîtrisés par les agents de la sécurité. Si vous voyez, maintenant là, dans la prison, nous avons à peu près 500 personnes qui ont été déjà arrêtées. Qui des voleurs armés, qui sont toujours présenté par les agents de l'ordre à l'autorité, je cite, le gouverneur de la province. Et donc, si d'aucuns croiraient que le ministre ne travaille pas, c'est trompé, parce que ces cas sont là, palpables. Et tous les jours, nous avons les audiences qui sont en train de passer, parce que, vous savez, arriver à découvrir que même les agents de l'ordre avec qui nous sommes en train de traiter, nous sommes en train de prendre des stratégies sécuritaires et aussi sont inclus parmi les auteurs de la criminalité urbaine. Et donc, dès que nous les avons déjà dévoilés, nous les avons connus, ils sont aux arrêts et ils sont en train d'être jugés. Donc, c'est une grande avancée parce que nous avons découvert que l'ennemi n'était pas loin, l'ennemi était avec nous, dans même des réunions, même dans des conseils. Et l'effort du gouvernement provincial est de réduire très sensiblement les taux de la criminalité urbaine. Ce sont les efforts qui sont conjugués. Même le gouverneur, le ministre, nous ne dormons pas. Nous sommes en train de chercher comment réduire sensiblement. Et ça sera réduit sensiblement, soyez-en sûrs.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour mener à bien votre mission qui est celle de sécuriser la population?
Les difficultés sont très nombreuses. D'abord, les reliefs de la ville. La ville, vous voyez le relief de la ville, ne permet pas à ce qu'une intervention puisse arriver au temps voulu. En dehors des reliefs, nous avons aussi l'état des routes. Si vous voulez intervenir dans 10 minutes, mais la route vous fait traîner jusqu'à 40, 50 ou 1 heure. Et aussi une grande difficulté, c'est nos collaborateurs qui sont avec nous en train de travailler, qui sont aussi des mèches avec certains auteurs. Et comme nous avons déjà commencé à les démanteler, cette difficulté-là ne sera plus énorme.
Monsieur le ministre Johnson Kasongo, je vous remercie.
C'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste.
C'était là le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. Il répondait aux questions de Paulin Munanga. C'est la fin de ce journal coordonné par Blaise Shindani Kambala, Alain Ngoy à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.